Juin 40. La moitié nord de la France vit dans l'angoisse. On fuit l'avancée des chars allemands qui s'enfoncent toujours plus à l'ouest sans rencontrer de véritable résistance. Depuis le début de la bataille de France, en mai, 8 à 10 millions de civils se mêlent aux soldats français dans un exode massif, l'un des plus importants déplacements de population du XXe siècle. Parmi ces déracinés, une femme et sa famille. Elle vient d'avoir 39 ans, elle s'appelle Yvonne de Gaulle et elle est séparée de son mari depuis plusieurs semaines. C'est par les journaux datés du 7 juin qu'elle a appris que Charles, son époux, avait été nommé sous-secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale et de la guerre. Pas le temps de se réjouir, face à l'invasion allemande, elle a décidé de se réfugier en Bretagne, à Carantec, avec ses trois enfants et la gouvernante de sa fille handicapée. Le 17 juin, les Allemands sont à Rennes. Yvonne prend sa décision, il faut fuir par le port de Brest, gagner l'Angleterre si possible, mais surtout quitter cette France en proie au défaitisme et qui baisse les armes. Le soir du 18 juin, Yvonne arrive à Brest. Dans cet important port breton, c'est le chaos. Avant l'arrivée de la Wehrmacht, on coule les sous-marins en réparation dans la rade, on sabote les machines-outils, près de 80 navires s'enfuient du port. Yvonne embarque sur le premier bateau venu avec ses trois enfants, la gouvernante, et pour tout bagage, un cabas noir. Elle ignore sa destination. Elle ignore aussi que le cargo polonais parti juste avant le leur a été bombardé et coulé par l'aviation allemande. Dans sa cabine, Yvonne serre sa fille Anne, terrorisée par l'écho des bombardements. Personne ne se doute qu'au même moment, à Londres, dans les studios de la BBC, Charles de Gaulle lance un vibrant appel à la résistance.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi.
Le lendemain matin, la famille débarque à Falmouth, une petite ville de Cornouailles. C'est là que Philippe, le fils aîné d'Yvonne, achète le Daily Mail et lit un article sur « un certain général de Gaulle qui a parlé la veille sur la BBC ». Voici l'histoire de la femme de l'homme providentiel, celle que les Français ont eu l'habitude de surnommer « Tante Yvonne ». Avant d'être cette première dame discrète et rondelette, elle fut la première résistante de la France libre. Mère courage autant que femme d'action. Sans elle, Charles n'aurait pas pu devenir le grand de Gaulle.
Épisode 3, Charles et Yvonne Vandroux.
Le gouvernement de Bordeaux avait choisi la capitulation. La France.
C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Vive la France, libre.
Parjure et traître à la fois, a trahi sa patrie.
Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude.
Charles et de Gaulle. Ça m'intéresse, histoire, vous raconte comment un homme seul est devenu le héros de la France libre.
Perdu au milieu des réfugiés dans une petite ville de Cornouailles, Yvonne vient d'apprendre que son mari est l'auteur d'un célèbre appel à la résistance. Elle sait depuis le début de leur mariage, en 1920, qu'elle a épousé un homme extraordinaire. Cette fois, elle en a une preuve éclatante. Mais pour l'heure, il faut localiser son mari. Son fils Philippe va au commissariat le plus proche pour dire qu'il est le fils du général français rebelle qui a parlé à la BBC. On les conduit comme un vulgaire menteur. Il faut dire aussi que le consulat de France refuse de fournir aux policiers britanniques l'adresse du traître de Gaulle. Mais le soir, un agent de police apporte discrètement le numéro de téléphone de Seymour Grove, le pied-à-terre londonien où loge Charles. C'est Yvonne qui téléphone à son époux, avec un incroyable détachement. Celui-ci répond simplement « Ah, c'est vous. Venez me rejoindre, je vous attends demain. » Le 20 juin, toute la famille prend le train pour Londres. Les retrouvailles ne donnent lieu à aucune effusion, même si Philippe de Gaulle note que c'est une des rares fois où il a vu ses parents s'embrasser devant des tiers. Frédéric Nau Dufour, historienne et biographe d'Yvonne de Gaulle.
On a affaire à deux personnes d'une grande pudeur, d'une grande retenue, et même dans les circonstances les plus incroyables, puisque là, elle a quand même traversé une mer en pleine guerre pour rejoindre son mari qui, lui, a lancé un appel à la résistance. C'est quand même pas très banal dans la vie d'un couple. Et bien même là, quand ils se retrouvent, c'est comme s'ils s'étaient quittés la veille et De Gaulle l'accueille par un salut tout à fait normal en lui disant « Ah, vous êtes là !» comme si c'était parfaitement normal.
Un élément méconnu pourrait expliquer le manque d'empressement de De Gaulle quand il retrouve sa femme. Il aurait eu une aventure au début de son exil, juste avant l'arrivée à Londres de sa famille. Le 17 juin, une jeune Française, Elisabeth de Miribel, est présentée à De Gaulle. Dans le petit appartement où Charles s'est réfugié, elle va taper à la machine l'appel du 18 juin. Dans son livre « La liberté souffre violence » publié en 1981, elle revient sur ce jour historique.
Dans l'après-midi du 17 juin 1940, le coup de téléphone que j'espérais secrètement m'a convoqué pour le lendemain matin à Seymour Place, dans un petit appartement. Je me suis retrouvée devant une machine à écrire, alors que je tapais fort mal et devant des feuilles manuscrites très difficiles à déchiffrer. Mon vrai travail commence vers 3 heures. Pour gagner du temps, Geoffroy de Courcelles m'en dicte des passages. Il emporte au fur et à mesure les feuillets dactylographiés pour les soumettre au général. Ces mots vont constituer une page d'histoire. Je ne le sais pas encore. Pourtant, j'ai l'obscur pressentiment de participer à un événement exceptionnel.
Entre 40 et 44, elle sera une collaboratrice fidèle du général, représentant les Français libres au Canada, puis à Alger. Correspondante de guerre pendant les campagnes d'Italie et de France, cette femme de caractère aurait-elle pu faire chavirer le vaillant De Gaulle ? Frédéric Nau Dufour.
À chaque fois que je disais à quelqu'un que je travaillais sur Yvonne De Gaulle, immédiatement, disons dans les minutes qui suivaient, m'était posée la question « Est-ce que De Gaulle a trompé Yvonne ?» Ma position, à force de côtoyer Yvonne et Charles par le biais des archives, et de considérer que cette union est restée vertueuse à partir du moment où ils se sont épousés, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'ils sont restés voués l'un à l'autre. D'abord, ce sont deux grands catholiques qui croient dans le sacrement du mariage, et à l'époque, ça a un sens tout à fait particulier. Et au-delà de ça, entre eux, on peut lire un amour qui ne faiblit pas, qui a eu peut-être des moments un peu difficiles, comme dans tous les couples. Mais l'histoire avec Elisabeth de Miribel me paraît hautement improbable, d'autant plus que ce genre d'histoire finit toujours par laisser des traces et que là on n'a rien du tout, on n'a pas de témoignage probant, on n'a que des rumeurs.
En juin 40, ce qu'accomplit Yvonne relève de l'acte héroïque. Et De Gaulle le sait. Depuis le 15 juin, il n'a plus de nouvelles de sa famille. Churchill, qui a accueilli De Gaulle à Londres, a envoyé un avion pour les chercher, mais l'appareil s'est écrasé et tout l'équipage a péri. En fuyant la France, Yvonne rend un grand service à la cause de la France libre. Nul doute qu'après l'appel du 18 juin, elle et sa famille auraient été les personnes les plus recherchées de France. Le maréchal Pétain, tout juste nommé président du Conseil et l'occupant allemand, aurait sûrement fait d'Yvonne une otage de poids, un moyen de pression insurmontable pour Charles exilé. Qu'aurait dit la presse collaborationniste de ce De Gaulle, ce parjure qui abandonne sa patrie et sa famille pour se jeter dans les bras des Anglais? Le père de famille n'aurait pu endosser longtemps le costume de chef de file de la France libre. Le destin d'une nation entière en aurait été changé à jamais. Frédéric Nau Dufour.
Si, il faut quand même souligner que pour une épouse, la décision prise par son mari de s'exiler à Londres et de lancer cet appel qui lui vaut... des sanctions extrêmement lourdes, hein. Il est privé de tous ses biens, il est dégradé, il est finalement condamné à mort par le régime de Vichy. Eh bien, tout ça, elle l'accepte. Et non seulement elle l'accepte, mais elle adhère au projet du 18 juin, elle sera la première gaulliste.
Avant d'être un époux modèle, De Gaulle est un ardent patriote. Il a l'impression de remplir enfin la mission de sa vie, sauver la France. Un engagement qu'il doit à l'autre femme de sa vie, la première, sa mère, Jeanne de Gaulle. Christine Cardellan, directrice de la rédaction de l'Usine Nouvelle et auteure d'un essai sur De Gaulle et les femmes.
Le rôle de Jeanne de Gaulle, la mère de Charles, c'est un rôle qui est vraiment structurant dans sa personnalité, dans la formation de son caractère. Parce que d'abord, c'était son fils préféré. Hein. Elle avait 5 enfants, dont 4 garçons. et certains beaucoup plus brillants que Charles, en tout cas de manière scolaire. À l'école, ils étaient beaucoup plus brillants car beaucoup plus disciplinés. Charles était plus fantasque, il ne réussissait que ce qu'il avait envie de réussir, mais il était son fils préféré parce qu'elle le sentait, elle lui sentait plus d'orgueil, plus de certitude. Elle était comme lui, il était comme elle, très très attaché à son pays, à la France, et à l'envie de un jour de rendre un service posté, comme il disait, c'est-à-dire en fait de sauver la France. Et ce super narcissisme que pouvait avoir Charles de Gaulle, il a, je pense, été créé chez lui par la foi que sa mère avait en lui. C'est-à-dire qu'elle était convaincue qu'il avait du génie, qu'il avait une étoile, qu'il avait un destin.
Charles de Gaulle naît le 22 novembre 1890 à Lille, dans une famille de la vieille noblesse française. Henri, son père, est professeur d'histoire au lycée Stanislas. Dans la famille, on raconte que les De Gaulle sont voués depuis 7 siècles au service de la monarchie française et qu'une chronique mentionne un De Gaulle recevant en 1210 un fief du roi Philippe Auguste. Le père de Charles est favorable au rétablissement de la monarchie et au retour des Bourbons. Dans l'appartement des De Gaulle à Paris, on n'entonne jamais la Marseillaise, un chant jugé impie, séditieux, sacrilège. Le 14 juillet est pour lui une date effroyable. Fervent catholique, le père de Charles lira l'Action française jusqu'à ce que le pape Pie XI condamne en 1926 la revue de Charles Maurras et le mouvement, expression d'un nationalisme immodéré. Mais Henri de Gaulle n'est pas anti-Dreyfusard, contrairement à son milieu de l'époque. Le petit de Gaulle grandit dans l'amour absolu de la patrie. À la maison, il joue avec ses trois frères aux petits soldats. Xavier, l'aîné, commande les Allemands. Pierre et Jacques sont à la tête des Russes ou des Anglais. Le petit Charles commande toujours les Français. Christine Cardellan.
Charles de Gaulle, c'est un petit garçon qui grandit en lisant à 7 ans la Jeanne d'Arc, je crois que ça s'appelle Les Mystères de la Charité, un drame en trois pièces de Charles Péguy, donc Le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc. Il est vraiment marqué par ça quand il est enfant. D'ailleurs, Péguy, c'est l'écrivain qui l'a de loin le plus marqué. Hein. Même à la fin de sa vie, il raconte à Alain Perfitte que Péguy, c'était un écrivain qui pensait comme lui. Il avait la même sensibilité que lui. Il pensait la même chose et donc tout ce qu'il écrivait lui parlait. Mais il avait grandi avec la Jeanne d'Arc, avec les contes du petit tambour patriote, avec Mémorial de Sainte-Hélène. Enfin voilà, il était allé sur les sites de bataille avec son père, avec sa mère. Et il citait Jeanne d'Arc en exemple en permanence sur le patriotisme, sur même le chauvinisme. Il disait mais Jeanne d'Arc, elle n'était pas chauvine, elle écoutait simplement son cœur, elle voulait défendre son pays.
C'est une autre Jeanne, sa mère, catholique très pratiquante, qui lui transmet une certaine idée de la France. Sa dévotion pour Jeanne d'Arc se confond avec son amour immense pour sa mère et son attachement à la patrie. Yvonne, qui a côtoyé près de 20 ans sa belle-mère, disait que Charles tenait de cette femme la partie la plus agressive de son caractère.
Ma belle-mère était sans aucun doute une maîtresse-femme. C'est d'elle que le général tient le plus.
Sa mère est sa complice. C'est avec elle que De Gaulle communique le plus. Christine Cardellan a étudié la correspondance du jeune Charles pendant la Première Guerre mondiale. Elle a constaté que 9 lettres sur 10 envoyées par De Gaulle l'ont été à sa mère. D'abord depuis les tranchées, ensuite depuis le camp où il est prisonnier en Allemagne pendant 32 mois.
C'est avec sa mère que Charles parlait politique, hein, mais c'est aussi sa mère qui était sa principale correspondante quand il était dans les tranchées en 14, 15, 16. En fait, il lui écrivait 9 lettres sur 10, c'était adressé à sa mère, hein, seulement pour les grands événements, pour le jour de l'an, etc. Elles étaient adressées à son père. Et ils avaient mis au point avec sa mère un code secret pour qu'elle lui envoie les choses dont il avait besoin. Donc, quand vous lisiez ces lettres, le début de chaque ligne, le mot de début de chaque ligne, si vous les reliez avec les premiers mots des lignes précédentes, c'était le code, vous retrouviez une autre phrase, et notamment... elle lui a comme ça fabriqué à sa demande un costume transformable qui était à la fois un costume militaire qui pouvait en enlever les galons pouvaient s'enlever les boutons etc. Enfin, il était transformable en costume civil pour faciliter son évasion. Elle lui a envoyé des petits outils au fond de boîtes de conserve, une lime, voilà. Et tout ça, c'était grâce au code secret qu'ils avaient mis au point tous les deux avant qu'il parte et qui lui permettait d'envoyer des lettres avec des messages particuliers.
Cette complicité, il la conserve jusqu'à la fin. En 1940, Jeanne de Gaulle a 60 ans. Le 15 juin, Charles, général à titre provisoire, est envoyé par le président du Conseil Paul Reynaud à Londres. Il doit tenter de négocier avec Churchill une nouvelle stratégie de résistance aux Allemands. En route, de Gaulle demande à son chauffeur de faire un crochet par Paimpont, en Bretagne, pour embrasser sa mère. Christine Cardellan.
Alors effectivement, avant de partir à Londres, non pas pour y aller s'y installer, mais au départ c'était pour négocier avec Churchill des renforts, de l'armement, voilà, pour la France. Il va prendre un bateau à Brest, il en profite pour passer, voir sa mère qui est à Paimpont et qui est très malade et qui va effectivement mourir 3 semaines après. Et il y a cette anecdote d'ailleurs très intéressante, c'est-à-dire qu'il voit sa mère le 15, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais il est très probable qu'elle le pousse à réaliser ce dont elle a toujours rêvé pendant qu'il était enfant, c'est-à-dire qu'il sauve la France.
Quelques jours plus tard, Charles prend la parole à la radio. Il n'a évidemment pas eu le temps de prévenir sa mère, qui est ballottée de village en village pour fuir l'avancée des nazis. Christine Cardellan.
Elle se retrouve à Locminé, avec des officiers français, et tout le monde est désespéré parce que les Allemands sont en train d'arriver, ils sont à quelques heures de là, et le curé Touelle de Locminé arrive sur la place. Il vient d'entendre sur la BBC quelque chose, un appel, et il dit aux gens qui sont là: ne désespérez pas, je viens d'entendre sur la BBC un jeune ministre, enfin secrétaire d'État dont je ne me souviens plus le nom, mais qui disait: je vais relever l'épée de la France, rejoignez-moi, nous allons nous battre à partir de Londres, le combat n'est pas perdu, le combat il est mondial, nous avons perdu une bataille, voilà, mais rien n'est terminé. Et alors là, évidemment, elle comprend que c'est son fils, et elle tire la manche du curé, et elle lui dit: mais c'est mon fils, monsieur le curé, c'est mon fils.
Jeanne de Gaulle mourra peu de temps après avoir entendu son fils préféré accomplir son destin. Le nouveau régime de Pétain va s'attacher à humilier la famille du général rebelle. Quand les De Gaulle veulent faire publier un faire-part, celui-ci est censuré. Il annoncera le décès d'une certaine Jeanne Maillot, son nom de jeune fille. Le patronyme Honi n'a même pas le droit de figurer sur la tombe, qui portera simplement un numéro et la date du 20 juin 40. Quelques semaines plus tard, un jeune Breton rallié à la France libre apportera à De Gaulle une photo de la tombe anonyme de sa mère à Paimpont. Malgré la censure de Vichy, elle est couverte de fleurs. Des inconnus la fleuriront jusqu'à la libération. Été 40. Charles et Yvonne organisent leur nouvelle vie dans la capitale britannique. Cet exil a un air de déjà-vu pour Yvonne. Née en 1900 à Calais, elle est issue d'une grande famille bourgeoise de la ville, propriétaire de la florissante biscuiterie Vendroux. La famille vit dans l'opulence, le respect de la religion catholique et l'amour de l'histoire de France. Pour son baptême, la petite Yvonne est entourée d'un voile en point d'Angleterre, offert au début de 1689 par la reine Marie d'Angleterre à un ancêtre calaisien de la famille Vendroux. Tout un symbole. Dans leur grande demeure calaisienne, les Vendroux organisent souvent des dîners rassemblant le gratin de la haute société. Les femmes élégantes, coiffées de chapeaux à plumes, accompagnent leurs maris négociants qui lorgnent sur les mets de choix disposés sur la table. L'huile d'olive est acheminée de chez Alzéari à Nice, les volailles de chez Piétrement, aux Halles de Paris. Le saumon doit impérativement avoir été pêché dans le fleuve Tay, en Écosse. Pour les douceurs, du chocolat en plaques de la Compagnie Coloniale. La petite Yvonne vit dans le luxe et le confort. Sa maison de Calais compte nombre de domestiques, de préférence originaires d'Alsace ou de Bretagne. Il y a une cuisinière, une bonne à tout faire et une femme de chambre, mais aussi un chauffeur, des nourrices et des préceptrices. Chaque matin, à 8 heures, un patron coiffeur entre chez les Vendroux pour la toilette du père, Jacques-Philippe. Voici comment le frère aîné d'Yvonne décrit cette toilette quotidienne, digne d'une scène théâtrale. Il vient à domicile raser mon père avec un des 7 rasoirs de Sheffield à manche d'ivoire rangé dans un écrin semeigné de maroquin vert frappé d'initiales dorées. Mon père n'emploie que le savon de Tridas, l'eau de Lubin, un peu de cosmétique à la violette de l'entérique. Yvonne, en fille bien élevée, apprend le piano, instrument bourgeois par excellence. À Noël 1913, elle joue avec brio lors de l'audition des élèves de son cours une valse de Paul Vax. Elle apprend plusieurs langues étrangères. Pour l'allemand, les parents Vandroux ont sélectionné une gouvernante alsacienne. Comme l'Alsace a quitté le giron français après la défaite de 1870, ils se sont d'abord assurés que cette gouvernante était bien restée française de cœur. Pour l'anglais, Yvonne se rend plusieurs fois par semaine chez Mrs. Ogben, une vieille veuve britannique habitant à quelques pâtés de maison. Frédéric Naudufour.
Oui, c'est une vie, c'est une vie un petit peu comme dans un conte de fées. Elle a des parents qui s'aiment, qui sont des gens bienveillants, qui sont des gens dotés de très importants moyens financiers et qui lui offrent donc une vie extrêmement confortable, entourée de beaucoup de personnel, une vie qui se déroule dans plusieurs lieux, à la fois un magnifique hôtel particulier où ils habitent à Calais, un château à Coulogne, non loin de Calais, ce immense château, cette immense propriété dans les Ardennes qui appartient à la famille de la mère d'Yvonne, donc la famille Forest, où Yvonne va passer toutes ses vacances estivales. C'est une famille qui est de plus assez avant-gardiste dans ses pratiques sociales. On fait du sport, on fait de l'alpinisme, on prend des bains de mer. On a une certaine ouverture sur le monde. Donc elle grandit dans un monde, dans un monde heureux. C'est une enfance heureuse que celle d'Yvonne de Gaulle.
Une vie à l'opposé de l'existence ascétique de Charles de Gaulle à la même époque. Le salaire mensuel du père professeur ne permet aucun écart. À Paris, la vie de famille est bien réglée. Tout juste possède-t-on pour les grandes vacances une maison de campagne en Dordogne. Ces aristocrates désargentés savent se serrer la ceinture pour envoyer leurs quatre fils étudier en Belgique afin de leur assurer un enseignement religieux interdit en France par la loi de 1905. On ne badine pas avec la foi. Yvonne a 14 ans quand la Première Guerre mondiale éclate. Le 25 septembre 14, Calais est bombardée pour la première fois. Elle le sera 68 fois au cours de la guerre. Le nord de la France est le théâtre de terribles affrontements et dès octobre 14, 13 départements français sont occupés par l'armée allemande, dont le sien, le Pas-de-Calais. Le courrier ne passe plus, les nouvelles ne circulent plus, la population est piégée, coupée du reste de la France et soumise à la loi allemande. Calais sera la première ville française à subir une attaque de Zeppelin, le dirigeable allemand. Ensuite, les avions, puis les bateaux allemands, attaqueront la ville, qui se transforme en hôpital à ciel ouvert, accueillant les militaires, alliés et français, qui affluent de l'Est, souvent blessés et dénués de tout. En 1959, le président de Gaulle évoquera à Calais le courage de cette ville martyre, autant en 1914 qu'en 1940.
« Si je me sens profondément touché de l'accueil magnifique de Calais, c'est d'abord en raison de tous les liens personnels qui m'unissent à votre noble, chère et magnifique cité. Calais est Calais, c'est-à-dire une ville qui, pendant les grandes épreuves que nous avons vécues, fut exemplaire à tous les égards, aussi bien pendant la Première que pendant la Deuxième Grande Guerre. Combien de fois pendant le drame, ma pensée allait vers vous. »
Le 15 août 14, les parents d'Yvonne décident d'envoyer leurs enfants en Angleterre. Ils y resteront jusqu'en avril de l'année suivante, le temps que le front se stabilise. Frédéric Naudufour.
La Première Guerre mondiale projette Yvonne Vandroux dans un autre univers, puisque ça va la pousser, alors qu'elle a à l'époque une quinzaine d'années, ça va la pousser à vivre pendant presque un an loin de ses parents, loin de sa maison. Elle se retrouve dans un autre univers. Et comme on l'a vu, ça va avoir un rôle par la suite. En 1940, quand elle va se reprojeter dans ce départ vers l'Angleterre.
C'est ainsi qu'en 1940, quand elle décide de fuir vers l'Angleterre, Yvonne reproduit une décision de bon sens prise par ses parents. Il faut protéger la famille avant tout. Pour elle, l'Angleterre représente un refuge, même temporaire.
l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent...
À Londres, Yvonne et Charles tentent de bricoler un semblant de vie de famille. Les exilés louent une maison à Petswood, au sud-est de la capitale. C'est une bâtisse de style Tudor, assez laide, mais qui a l'avantage d'être meublée et bon marché. Elle est surtout facile d'accès, un détail d'importance pour De Gaulle, toujours par Mons et par Vaux. Chaque matin, une voiture mise à sa disposition par le directeur de la maison Cartier à Londres vient le chercher. Direction Carlton Gardens, le QG de la France libre. Yvonne passe le reste de la journée seule, dans cette maison proche d'un important nœud ferroviaire. C'est justement ce genre d'endroit que les Allemands prennent pour cible lors du Blitz, la campagne de bombardement de la capitale anglaise. La petite Anne est terrorisée par les alertes constantes et les explosions.
Ils approchent. Ce ne sont pas des bruitages hollywoodiens. C'est la musique qu'on entend chaque nuit à Londres. La symphonie de la guerre. Les bombes ont déclenché des feux, alors les pilotes repassent immédiatement et visent l'incendie en espérant qu'il se propage. La nuit est longue, mais l'aube finit toujours par revenir. Les bombardiers allemands sont des créatures de la nuit.
Pendant qu'elle réconforte sa fille paniquée, Yvonne pleure-t-elle ? Préfère-t-elle attendre le soir, après le retour de son mari, pour se laisser aller à la détresse ? Impossible de le savoir. La très secrète Yvonne a pris soin de ne laisser aucune trace de sa vie intime. Frédéric Naudufour.
Le problème de travailler sur Yvonne, c'est qu'elle-même n'a pas écrit de mémoire, elle n'a donné aucune interview de toute sa vie, elle était assez inaccessible parce qu'elle ne se livrait pas, elle ne voulait pas interférer avec la vie publique de son mari.
C'est sûrement cette discrétion, en plus de son regard vif et de son air de chat, qui ont séduit Charles lors de leur rencontre en 1920. De Gaulle a 29 ans, il sert en tant qu'officier en Pologne. Dans une lettre à sa mère, il exprime son souhait de se marier bientôt. « Vous savez, ma bien chère maman, ce que je souhaite que cette année m'apporte à moi-même, une famille, et dans la tranquillité d'un amour profond et sanctifié, le pouvoir de donner à quelque autre tout le bonheur qu'un homme peut donner. » La même année, Madame Danquin Ferrand, une amie des De Gaulle qui vit à Calais, est de passage à Paris où elle rencontre le jeune Charles.
« Je retrouvais un jeune et bel officier qui en imposait. »
À la vue du célibataire, elle pense à Yvonne, la fille de ses amis Vendroux.
« Une douce créature au visage de poupée, mais au caractère bien affirmé. » Une curieuse pensée me traversa l'esprit. Yvonne Vendroux ne veut pas épouser de militaire, mais je suis sûre qu'elle changerait d'avis si elle rencontrait Charles de Gaulle.
Une entremetteuse, des lettres échangées à la mère, une fiancée bien plus jeune que son prétendant, voilà qui fleure bon le mariage arrangé. Yvonne étant de tempérament rebelle, on prend soin de lui cacher le caractère arrangé de la première rencontre avec son prétendant. Frédéric Naudufour.
C'est un mariage arrangé, ce qui est assez banal encore dans les années 20, dans ces milieux de la grande bourgeoisie ou les milieux aristocratiques. Mais en même temps, visiblement, elle n'est pas tellement au courant qu'une amie des deux familles, Madame Danquin Ferrand, a joué le rôle d'entremetteuse. On sauve les apparences. En même temps, je suis plutôt une défenseuse du mariage arrangé, enfin en l'occurrence pour Charles et Yvonne, parce que finalement, dans leur cas, ça marche parfaitement bien. Cette personne qui les a fait se rencontrer a eu l'intuition que leur milieu social, leurs valeurs, leur culture pouvaient favoriser une rencontre, et ça a été le cas. Et à l'époque où... quand même, je crois que maintenant, il y a un pourcentage intéressant de personnes qui se rencontrent par le biais des sites de rencontres. On n'est pas tellement loin dans la démarche. C'est finalement une mise en relation de deux personnes sur des critères soi-disant objectifs qui devraient permettre à une union de fonctionner.
et c'est ainsi que Madame Danquin-Ferrand profite d'une permission de Charles pour l'inviter chez elle, à Calais, en présence des parents Vendroux. La conversation glisse sur des sujets artistiques. Les deux jeunes gens se découvrent une passion commune pour la Dame en bleu de Van Dongen et on décide d'aller voir le tableau en vrai le jeudi suivant. Rendez-vous est pris à 3h au Grand Palais, à Paris. La suite de l'histoire tient de la légende. On dit qu'après l'exposition, les tourtereaux ont pris le thé. Charles, saisi par le trac, aurait renversé son thé sur la robe d'Yvonne. Quelques jours plus tard, Charles envoie une invitation à Yvonne et à son frère pour le bal de Saint-Cyr, qui sera donné le dimanche suivant à l'hôtel des Réservoirs, à Versailles. Le lendemain de la fête, interrogée par son frère, elle déclare à propos du séduisant officier
« Ce sera lui ou personne ?»
L'affaire pourrait s'arrêter là, mais c'est oublier que Charles est un militaire. Or, depuis 1685, tous les militaires français sont légalement privés du droit de contracter librement mariage. Il leur faut l'autorisation de leur supérieur hiérarchique, qui doit vérifier le montant de la dot apportée par l'épouse, ainsi que sa bonne moralité. Une enquête est donc diligentée par la gendarmerie, selon une procédure qui aura cours jusqu'en 1975. Verdict, la jeune, jolie et très catholique héritière des biscuiteries Vendroux peut convoler avec le grand Charles. Yvonne, qui n'était pas du tout attirée par la vie menée par les femmes d'officier, a bien vite changé d'avis. Et sa famille se trouve ravie de ce choix. Frédéric Naudufour.
Tous les mariages arrangés répondent à une volonté stratégique. Pour Charles, c'est évidemment un bon mariage, puisque Yvonne Vendroux vient d'un milieu, on l'a dit, très riche. Elle a donc une dot importante, dont je n'ai toujours pas réussi à trouver le montant, mais qui devait être assez conséquente. Pour Yvonne, en revanche, on peut se demander quel est le gain, si on parle purement de manière extrêmement pragmatique, quel est le gain pour la famille Vendroux de laisser Yvonne épouser un officier ? Parce que économiquement, ça ne présente aucun intérêt. Les militaires ne sont pas extrêmement bien payés. Et il faut voir dans ce gain non pas une volonté d'amasser un capital supplémentaire, mais de renforcer sans doute un capital culturel. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale, et si on peut dire ainsi, la valeur de l'officier sur le marché matrimonial a augmenté parce qu'on ressort de la guerre avec une image extrêmement favorable de ces hommes qui ont combattu pour défendre la France. Donc il y a un certain prestige qui est lié à ce moment-là à l'armée, et c'est sans doute ce prestige que reconnaît la famille Vendroux.
Charles et Yvonne se fiancent le 11 novembre 1920, une date hautement symbolique pour ces deux grands patriotes. Yvonne de Gaulle, dans une lettre à une amie,
« Nous nous marions à Pâques. J'habiterai Paris. Mon fiancé a 29 ans. Il est très grand, brun, très beau garçon. Enfin, nous serons très heureux l'un par l'autre. Je suis si heureuse que je ne sais pas où j'en suis. »
Dès le début de leur mariage, de Gaulle se montre très attaché à son épouse. Quand il est en mission, il lui écrit souvent, l'appelant « ma petite femme chérie ». Le couple accueille rapidement deux enfants, Philippe en 1921 et Elisabeth en 1924. Le 1er janvier 1928, la petite Anne devient le troisième enfant de la famille de Gaulle. Quand il annonce la nouvelle à un de ses amis, le jeune père ne peut s'empêcher de jouer les prophètes. Nous l'appellerons Anne. Elle verra peut-être l'an 2000 et la grande peur qui se déchaînera sans doute sur le monde à ce moment-là. Elle verra les nouveaux riches devenir pauvres et les anciens riches recouvrer leur fortune à la faveur des bouleversements. Mais la petite Anne ne verra pas l'an 2000. Elle mourra même prématurément à l'âge de 20 ans. Dès ses premiers mois, il est clair que le bébé ne va pas bien. Elle manque de réflexes, réagit peu aux stimulations de son entourage. Yvonne écrit à une amie
« Nous abandonnerions tout ce qui est ambition et fortune si cela pouvait améliorer l'état de santé de notre petite Anne. »
Quelques mois plus tard, les parents sont fixés. La petite souffre de mongolisme, comme disent les médecins à l'époque. Elle est porteuse d'une anomalie génétique appelée trisomie 21. Il y aura un avant et un après Anne. Frédéric Naudufour.
La rupture, parce qu'il y en a une, intervient avec la naissance d'Anne en 1928, qui va plonger le couple dans un désarroi profond, puisque quelques mois après la naissance, ils constatent que la petite fille est handicapée et que ça va gréver leur vie. En même temps l'aggraver et en même temps lui donner une sorte de hauteur, une sorte de lumière imprévue douloureuse, mais malgré tout réelle. Sur les rares clichés qu'on a d'elle, on retrouve plus cette gaieté, cette légèreté, et on peut imaginer que cette femme est accaparée par les soucis que lui pose cet enfant, par le fait qu'elle se développera pas comme les autres, par le fait qu'il faut sans cesse veiller sur elle parce qu'elle est absolument pas autonome. Donc c'est un souci permanent.
La jeune femme enjouée, ex-enfant gâté du nord de la France, se mue en une mère soucieuse. Le couple va prendre une décision incroyable à une époque où la bonne société cache ses handicapés mentaux. Frédéric Naudufour.
C'est quelque chose d'assez original pour l'époque, puisque les enfants handicapés, qu'on appelle à l'époque pas du tout handicapés, ça c'est un mot contemporain, on les appelle arriérés ou incapables. Ou irrécupérables, sont d'ailleurs des mots, aujourd'hui ça nous paraît très dur comme mot, mais ce sont des mots qu'utilise Yvonne elle-même pour désigner ses enfants handicapés. Donc ces enfants irrécupérables, entre guillemets, on avait plutôt tendance à les mettre dans des sortes d'asiles épouvantables, sans moyen de les éduquer ou de les éveiller à quoi que ce soit. Et le couple de Gaulle choisit de la garder avec eux. C'est un choix significatif de leurs valeurs, ce sont des gens profondément croyants, et qui considèrent qu'un enfant handicapé a besoin sans doute d'encore plus d'amour qu'un enfant qui ne le serait pas. C'est une innocente, et dans les Écritures saintes, il convient de protéger les innocents et de leur consacrer plus d'amour encore, plus d'intérêt qu'aux autres. Donc ils vont consacrer beaucoup de temps, beaucoup de budget également à cette petite fille, puisque en choisissant de la garder chez elle, ils sont contraints de prendre à demeure, à temps complet, une gouvernante qui va veiller sur Anne jour après jour.
C'est pour lui offrir un cadre de vie tranquille, au vert, que les De Gaulle acquièrent la propriété de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne. À 45 000 francs, la maison est très abordable. Le couple l'acquiert en viager à une veuve qui décède au bout de quelques mois. La famille peut donc prendre possession de cette bâtisse qui ne dispose ni de l'eau courante ni du chauffage central.
Ici, rien n'a changé ou presque. L'amiral de Gaulle a tenu à conserver l'esprit familial, en résumé, sérénité, chaleur et simplicité.
Mes parents avaient acheté cette maison en mai 1934. Parce que c'était bon marché. Parce que c'était le lieu géographique entre Paris et les garnisons possibles de l'Est. Parce que j'avais une sœur infirme qui ne pouvait assez difficilement vivre plus longtemps dans une grande ville.
C'est dans cette propriété, au confort largement amélioré, que le couple présidentiel accueillera plus tard les grandes ce monde, comme en ce jour de 1958.
Ce village tranquille connaissait ce dimanche-là une animation extraordinaire. Un grand événement était annoncé. Une voiture devait venir de l'Est. Le chancelier Adenauer venait rencontrer le général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Deux grilles et plus encore pour faire respecter la discrétion du lieu. Mais finalement, de l'autre côté des grilles, la caméra a pu enregistrer la poignée de main du chancelier allemand et du président du Conseil français, qui ne s'étaient jamais rencontrés. On peut imaginer qu'au cours de l'entretien, les deux hommes d'État ont convenu que Français et Allemands sont désormais appelés à vivre d'accord et à travailler côte à côte.
Dix-neuf ans avant cette poignée de main historique, la France et l'Allemagne sont à couteau tiré. Le 3 septembre 1939, Daladier, président du Conseil, déclare la guerre.
Nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France !
En janvier 40, bloqué avec la 5e armée stationnée en Alsace, qu'il commande, De Gaulle s'inquiète pour sa femme, restée seule à Colombey avec leur fille Anne. Il demande à sa sœur de lui écrire. Elle est bien seule et bien soucieuse et, comme vous le savez, elle n'extériorise pas. Le 15 mai 40, il part au front. C'est la bataille de France qui commence. Il écrit à sa femme de se préparer à fuir. On connaît la suite. Yvonne va faire preuve d'un incroyable sang-froid en sauvant sa famille. Son attitude est à l'opposé de la soumission que le maréchal Pétain attend des Françaises. Avec sa devise « Travail, famille, patrie », il a fait de la mère le pilier de sa société restaurée. En mai 1941, les actualités mondiales, produites et contrôlées par les nazis et Vichy, mettent à l'honneur les femmes les plus méritantes.
La France célèbre aujourd'hui la journée des mères. Fête émouvante en l'honneur de celle qui est véritablement l'âme de la famille et qui transmet avec la vie les vertus qui font les peuples forts. Dans les mairies, les mamans de plus de 5 enfants reçoivent un diplôme officiel remis par le représentant du gouvernement. À l'Arc de Triomphe, les mères décorées ont tenu à venir allumer la flamme sacrée, symbole de cette union des cœurs à laquelle le maréchal a convié tous les Français. Mais la fête de la famille est aussi celle des enfants, et un goûter leur apporte joie et plaisir.
Pendant la guerre, alors que son mari devient le chef de la France libre, reconnu par Churchill, rudoyé par Roosevelt, elle apprendra son rôle de première dame. Elle accomplit une diplomatie secrète mais efficace, dînant chez les Churchill, se rendant auprès de la reine. Frédéric Naudufour.
C'est une femme d'une grande efficacité, certainement pas une intellectuelle, mais néanmoins une personne dotée d'une intelligence tout à fait particulière. On ne voit pas que le général de Gaulle aurait choisi une épouse avec qui il n'aurait pas pu échanger. Or, on voit dans les courriers qu'il lui adresse, qui sont très intéressants, qu'il la traite d'égal à égal. Et ça, c'est ce qui est fascinant dans la relation de Gaulle aux femmes, et en particulier à sa femme, c'est que pour lui, ça ne fait pas de différence. Elle est capable, comme le serait un conseiller politique, comme le serait son premier ministre, elle est capable de comprendre ce qu'il dit.
Devenue femme de président en 1958, Yvonne devient la tante préférée des Français.
Au palais de l'Élysée, l'arbre de Noël a poussé un peu en avance. Mêlés aux enfants des collaborateurs de la présidence, 200 élèves méritants des écoles de Paris ont été les hôtes ravis de Madame de Gaulle et du chef de l'État, qui a abandonné quelques instants les soucis de sa charge pour jouer les Pères Noël.
Mais il est injuste de la cantonner à un rôle de mamie soumise. Yvonne a eu une influence politique déterminante sur des questions cruciales, comme la loi sur l'autorisation de la contraception. « Nous n'allons pas sacrifier la France à la bagatelle », assure d'abord le général de Gaulle quand le député Lucien de Wirth lui soumet le projet en 1967. L'élu de la Loire lui expose méthodiquement ses arguments, comme il le fait dans cette archive de l'ORTF.
« Cette loi peut nous servir dans un sens qu'il permettra à toutes les femmes qui désirent avoir des enfants de pouvoir les avoir en sachant que leur avenir et les moyens leur seront donnés de pouvoir les élever. Et voyez-vous, cela est tout naturel. » Parce que, en fin de compte, c'est l'avenir même de notre peuple qui est concerné. Cette affaire est une affaire nationale.
Quelques semaines plus tard, le président demande que le projet de loi soit mis à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée. En réalité, Charles et Yvonne ont eux aussi été confrontés au problème du contrôle des naissances. Ces fervents catholiques, qui ont toujours rêvé d'une famille nombreuse, n'ont plus eu d'enfants après la naissance d'Anne. Quels moyens ont-ils utilisé ? Mystère. En tout cas, Yvonne semble avoir été sensible aux arguments de Neuwirth. Elle a pu influencer son mari. Et finalement, le 19 décembre 1967, la loi autorise les Françaises à acheter la pilule sur ordonnance. Christine Cardellan.
C'était aussi une femme, une entrepreneuse, au sens où elle a été pendant 30 ans la patronne de la fondation Anne de Gaulle pour les enfants handicapés. Et elle, son conseil d'administration, il y avait la parité avant l'heure. Elle avait, quand on raconte qu'elle n'aimait pas les divorcés, etc., dans ce conseil d'administration, il y avait une femme qui était divorcée, qui avait comme elle un enfant handicapé, etc. Donc il y a beaucoup de fausses idées qui ont circulé sur Madame de Gaulle, potiche, popote, etc., alors qu'elle était un DRH de l'ombre, qu'elle relisait tous les discours, que sur la pilule ou sur la loi sur les incapables majeurs, elle a eu un rôle fondamental.
En 1969, Charles démissionne de la présidence de la République. Il meurt un an plus tard. Yvonne entre dans la maison de retraite des Sœurs de l'Immaculée Conception, à Paris. Elle meurt à l'hôpital du Val-de-Grâce, 10 ans après, à l'âge de 79 ans, le 8 novembre 1979. Elle repose dans le cimetière de Colombey, aux côtés de son époux et de leur fille Anne.
Dans le prochain épisode, nous décrypterons les relations troubles entre Charles de Gaulle et Winston Churchill, le Premier ministre britannique. un épisode écrit par Cyrielle Lemoine-Tolba, raconté par Cyril Azouvi et réalisé par Lucas Vibo. Retrouvez le podcast Charles et De Gaulle sur vos plateformes d'écoute habituelles. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. À bientôt !